de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant une heure pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, voici les journaux d'aujourd'hui. On commence par le titre « Le président Jokowi inaugure une usine de rayon à Pelalawan, Riau. Les 13 institutions ont convenu de surveiller la mer Natuna du Nord pour éviter les chevauchements. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche veut optimiser la valeur économique des produits à base d'algues. Ganjar publie les exportations de 10 bus à Imperial vers le Bangladesh. Et voici les journaux incomplets. Vendredi, le président Joko Widodo a inauguré l'usine Asia-Pacific Rayon, ou abrégée en APR, à la région de Pelalawan, Riau. Dans son discours, le président Jokowi a déclaré qu'il était très surpris de découvrir que l'APR disposait d'une technologie sophistiquée pour produire 200 millions de semences de plantes industrielles sous forme d'acacia et d'eucalyptus. Le président Jokowi a également admiré la technologie de l'usine Asia-Pacific Rayon, ou APR, qui peut transformer les fibres de bois en textiles de type rayon. Le président Jokowi a déclaré que le gouvernement indonésien était déterminé à soutenir le climat d'investissement. Le président Jokowi a demandé au ministre de l'Industrie de soutenir le développement de l'industrie du vêtement indonésien afin d'être plus global. Au total, 13 institutions ont signé un accord conjoint sur la surveillance, la sécurité et l'utilisation des ressources halieutiques dans la région de la mer de Natuna du Nord. La signature de l'accord conjoint a été effectuée vendredi au quartier général de l'Agence de sécurité maritime à Jakarta, témoigné par le ministre de la Coordination de la politique, du droit et de la sécurité Mahfud MD et le chef de l'Agence de la sécurité maritime, le vice-amiral Aan Kurnia. Les 13 institutions sont entre autres le ministère de coordination de la politique, du droit et de la sécurité et plusieurs ministères en dessous du ministre de la coordination de la politique, du droit et de la sécurité TNI Polri, l'Agence de sécurité maritime, l'Association des pêcheurs indonésiennes et le groupe de pêcheurs indépendants. Après la signature de la coopération, Mahfud a expliqué l'importance de la synergie dans la gestion marine en raison de la présence de nombreuses institutions. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche souhaite que la valeur économique des produits à base d'algues, qui sont largement cultivés dans diverses régions, soit vraiment optimisée et renforcer la compétitivité de leurs produits à l'échelle mondiale. La secrétaire du directorat général de l'aquaculture du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Gemi Triastuti, dans le lancement du programme de coopération des gouvernements indonésiens et australiens sur l'amélioration de la production de graines d'algues, qui s'est tenue vendredi au bureau du ministère des Affaires maritimes et de la pêche à Jakarta, a déclaré « Bien que la culture d'algues soit abondante, sa valeur économique n'était pas maximale. Selon elle, il existe actuellement de nombreux produits à base d'algues crues qui sont exportés, même s'ils doivent être développés de manière à avoir plus de valeur ajoutée. Gemi a également rappelé que les nombreuses industries pourraient être liées au processus et aux résultats de l'algue en aval, y compris les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Le gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, a libéré 10 unités de bus à Imperial fabriquées par Carrosserie Laksana, exportées vers le Bangladesh à l'usine de cette entreprise en région de Semarang. Le bus à Imperial a la longueur de 14,4 mètres et la hauteur de 4,1 mètres, dont la conception est l'œuvre des Indonésiens. Le gouverneur Ganjar s'est dit heureux parce que les entrepreneurs ont vraiment profité des installations d'exportation fournies par le gouvernement. Parmi les incitations sous forme de facilité d'importation à des fins d'exportation, il a souligné que le gouvernement soutiendrait pleinement les progrès du monde des affaires, en particulier ceux axés sur les exportations. Voilà les journaux d'aujourd'hui.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Tangerang, Banten. Jeudi dernier, le maire de Tangerang, Arif R. Wismansyah, a inauguré Flying Track dans la forêt de la ville et a lancé l'application Portail de Jardin pour permettre au public de découvrir plus facilement les parcs thématiques et d'emprunter des installations publiques dans le parc. À cette occasion, Arif a déclaré que la forêt urbaine est un parc thématique qui mérite d'être visité par des personnes de l'intérieur et de l'extérieur de la ville de Tangerang. En outre, le maire a également déclaré que l'application Portail de Jardin devrait fournir des informations et une éducation sur le type de plantes, les avantages des plantes et les types d'animaux. En plus de Flying Track dans la forêt de la ville Tangerang, il existe 10 espèces de volailles, telles que les pigeons, les oies, les poulets perlier, les dindes et les poulets nains. Ensuite, l'info de Palangkaraya, Kalimantan Central. 3 orang-outans ont été relâchés dans le parc national Bukit Baka Bukit Raya au recours Tumbang Hiran, la section de gestion de la région 2 du parc national Kasongan, Kalimantan Central. Le PDG de la Borneo Orang-Outan Survival Foundation, BOSF, Jamartin Sihite, à Palangkaraya a déclaré mercredi que les 3 orang-outans étaient en cours de réhabilitation depuis plusieurs années au centre de réhabilitation BOSF Nyaru Menteng, Kalimantan Central. Pendant ce temps, le chef du parc national Bukit Baka Bukit Raya, Agung Nugroho, a déclaré que la zone avait été déclarée éligible comme site de libération d'orang-outan qui avait subi une réhabilitation. La région a la disponibilité d'espèces végétales, la hauteur du niveau de la mer, la présence minimale d'orang-outan sauvages, la capacité en loing de l'accès aux activités humaines. Depuis 2016 jusqu'à présent, 171 orang-outans ont été relâchés dans le parc national Bukit Baka Bukit Raya. La dernière info est venue de Bangka Belitung. Le bureau de gestion des bassins versants et la forêt protégée Baturusa Cerucuk en province des îles Bangka Belitung a construit une pépinière d'arbres gaharu ou Aquilaria malaxensis dans le village Namang, Régence Bangka Central, pour augmenter le nombre de plantes et la production de la marchandise. Le directeur du bureau de la gestion des bassins versants et la forêt protégée Baturusa Cerucuk, Maman Sudarman à Namang, a expliqué mardi que le village Namang était utilisé comme une pépinière de bois gaharu à grande échelle parce que le gouvernement local se concentre sur le développement de plantes de grande valeur. Maman espère que la pépinière de bois garou pourra aider les agriculteurs qui cultivent avec diligence des plants de bois garou à la fois individuellement et en groupe. Chers amis, c'était les impôts de l'Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 22 février. Le 22 février 1958, la signature de la République arabe unie. La République arabe unie est un pays formé entre 1958 et 1961. Cette république est une combinaison de l'Égypte et de la Syrie. La République arabe unie est une idée originale de Jamal Abdel Nasser. La République arabe unie est le premier pas vers la réalisation d'un pays pan-arabe. Le président Nasser et le président Choukri Al-Kouadli ont signé l'accord d'unité le 22 février 1958. Nasser a été nommé président de la République arabe unie et le Caire a été fait sa capitale. Le 22 février 1997, le premier mouton Dolly cloné a été annoncé. Le 22 février 1997, une équipe de scientifiques britanniques dirigée par Ian Wilmot à l'Institut Roslin, près d'Édimbourg, en Écosse, a annoncé l'existence d'une brebis nommée Dolly. Dolly est spéciale car elle est le premier mammifère à être complètement cloné. Cette recherche de clonage est une collaboration de l'Institut Roslin qui fait partie de l'Université d'Édimbourg et de la Société de biotechnologie PPL Thérapeutique. Le 22 février 2012, Kevin Rudd a démissionné de son poste. Le ministre australien des Affaires étrangères, Kevin Rudd, a démissionné de son poste lors d'une conférence de presse en marge d'une visite d'État à Washington, États-Unis, le 22 février 2012. La raison de sa démission était qu'il estimait qu'il n'avait plus le soutien et la confiance du Premier ministre Julia Gillard. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Own 7, 8 Seberapa pantas kakak untuk ku tunggu Cukup indah karirmu untuk selalu ku nantikan Mumpuka kau hadir dalam setiap mimpi burukku Oh mumpuka kita bertahan di saat kita jauh
Seberapa hebat kau untuk ku banggakan
Tanya-nya kau yang benar-benar aku tunggu Hanya kau yang untuk selalu kuandalkan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Selalukah kau meyakinkan di saat aku bimbang?
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous venez d'écouter la chanson de Gamal Audrey Cantika dont le titre est Seberapa Pantas. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz et vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie et un petit titre, le Parlement approuve les sacs en plastique soumis à Axis. La commission 11 du Parlement indonésien a finalement approuvé l'imposition de l'accis sur les sacs en plastique craquelés proposés par la ministre des Finances Sri Mulyani. L'accord a été conclu lors d'une réunion au Parlement à Jakarta le mercredi 19 février dernier. Ils ont même fait valoir que si le gouvernement voulait concentrer et prioriser les facteurs environnementaux et sanitaires, l'accis en plastique ne devrait pas seulement être destiné aux sacs en plastique, mais s'applique également aux produits en plastique tels que les emballages de boissons, les emballages alimentaires instantanés, etc. Un membre de la commission 11 du Parlement, Dolphy, estime que l'accis sur le plastique ne devrait pas seulement être appliqué aux sacs en plastique, mais également au plastique avec un volume plus important et un processus de recyclage plus long. Le Parlement a accepté d'étendre les objets soumis à accis aux produits en plastique tels que les bouteilles de boissons et les emballages alimentaires. Répondant à la proposition du Parlement, la ministre Sri Mulyani a déclaré que le gouvernement allait revoir sa politique. Lors de la réunion avec le Parlement, la ministre des Finances Sri Mulyani a expliqué le plan du gouvernement, à savoir le taux de la taxe d'accise sur les sacs en plastique de 30 000 rupiahs par kilogramme ou 200 rupiahs par feuille. De cette façon, les détaillants factureront environ 200 à 500 rupiahs par feuille pour les consommateurs qui souhaitent obtenir des sacs en plastique. Sri Mulyani a ajouté que les sacs en plastique sont actuellement payés entre 200 et 500 rupiah par feuille, parce qu'il y a une circulaire du ministère de l'Environnement et des Forêts depuis 2016. Les tarifs sont comparables à ceux actuellement en vigueur, afin de ne pas provoquer d'agitation dans la communauté. Mais selon Sri Mulyani, jusqu'à présent, les prélèvements sur les sacs en plastique n'ont pas été clairs. Pour cette raison, l'accis est appliqué de sorte que le prélèvement soit clairement inscrit au trésor public. De plus, cette taxe d'accis sur le plastique uniformise toutes les régions. Sri Mulyani a expliqué que la taxe d'accis de 30 000 rupiah par kilogramme était parmi les plus bas par rapport à d'autres pays. L'Irlande est la plus élevée avec un droit d'accis de 322 990 rupiah par kilogramme. Malaisie avec 63 503 rupiah par kilogramme. Sur les 10 pays de l'ASEAN, seuls 4 pays ont mis en place une accise sur le plastique, à savoir les Philippines, le Cambodge, le Vietnam et la Malaisie. L'Indonésie est donc devenue le 5e pays à l'appliquer. L'un des objectifs de cette taxe d'accise sur le plastique est de contrôler la consommation dans la communauté car elle est le plus grand contributeur à la pollution de l'environnement. À l'heure actuelle, la consommation atteint 107 millions de kilogrammes. Avec cette taxe, le chiffre devrait chuter de moitié à 53 millions de kilogrammes. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sejenak saja, tunggulah di sana. Sejenak saja,
sejenak saja.
Tunggulah di sana.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Arman Maulana intitulée « Tunggu di sana » qui signifie « Attends-la ». Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant Kuningan à Jawa West pour goûter aux délices de Hucap. Pour un amoureux de la gastronomie, le petit déjeuner est important, pas seulement pour augmenter l'endurance lors d'une visite, mais aussi pour aider les touristes à découvrir le trésor culinaire de la région visitée. Cette fois, la cuisine Hucap est une cuisine à ne pas manquer si nous nous rendons à Kuningan, Jawa West. Les aliments transformés qui sont un mélange de tofu frit et de ketupat dans presque toutes les régions ont leurs propres particularités. Chaque région a un nom pour la nourriture qui est relativement similaire. La présentation varie également avec un mélange d'autres ingrédients. Par exemple, à Cirebon, le ketupat ou kupat est un mélange avec du tofu, des vermicelles, des germes de soja, des concombres et des craquelins sont appelés ketoprak. À Kuningan, le hucap, qui est l'abréviation de tofu et de sauce soja, est généralement le petit déjeuner ou le déjeuner. Le ketupat taillé est ensuite ajouté avec du tofu frit et donné une sauce aux arachides épaisses et une sauce de soja noire, puis servi dans une assiette et mangé à la fourchette. Une fois à l'intérieur de votre bouche, vous vous sentirez un ketupat à mâcher en laiton typique avec un goût salé mélangé avec doux et légèrement aigre. Sur les marchés traditionnels, les commerçants de Hucap sont faciles à trouver. Les commerçants de Hucap ne proposent qu'un seul type de menu. C'est du Hucap typique de Kuningan, rien d'autre. Et les boissons ne contiennent également que du thé frais et chaud. Si vous voulez une autre boisson, les visiteurs peuvent l'acheter ailleurs. Habituellement, les commerçants de Hucap commencent à vendre leurs marchandises le matin à partir de 6h jusqu'à 9h. Pour le prix, ne vous inquiétez pas, car avec une gamme de prix de 6 000 à 10 000 rupiah, vous pouvez obtenir une portion de hucap. Pour obtenir hucap, vous devez être prêt à vous lever plus tôt, car un petit après-midi, sera difficile à trouver des commerçants d'Ocha. Si vous voyagez en Indonésie, en particulier à Kuningan, à Java West, ne manquez pas de goûter ce délicieux Ocha. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la chanson de The Groove dont le titre est « Bawalah Daku » qui signifie « Apporte-moi ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en colère.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en colère, en formant sur des étudiants de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie qui développent des applications pour concevoir des voies d'irrigation rentables. Trois étudiants de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie ont développé un logiciel pour aider à trouver la voie de système d'irrigation la plus optimale. L'irrigation a une longueur et des tours minimum. Cette idée est contenue dans un article scientifique intitulé « Optimisation de l'irrigation des canalisations à ligne plate à l'aide de l'algorithme à aspirer ». Grâce à la découverte des étudiants de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie, les gestionnaires agricoles devraient être en mesure de gagner du temps à faire des sentiers d'irrigation et de déterminer facilement la longueur des chemins et des virages ainsi que des minimums et des rendements plus efficaces. De plus, l'impact de l'utilisation de cette application est également important pour réduire les coûts de développement de l'irrigation. Cette recherche est motivée par la conception du parcours du système d'irrigation agricole qui n'a jusqu'ici utilisé que l'expérience et l'intuition. En conséquence, cela prend beaucoup de temps à faire et des coûts de fabrication coûteux, car la longueur de la voie et la conception du chemin du système d'irrigation ne sont toujours pas minimales. Par conséquent, l'équipe de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie a compilé un logiciel qui a développé en utilisant l'algorithme à aspirer pour concevoir un chemin de système d'irrigation plus rapide qui n'a pris que 30 secondes. Pendant ce temps, la longueur de la voie et des virages est également plus minimale avec une efficacité de 8,81%. L'application conçue produira l'itinéraire le plus court possible, le moins de virages possible et le moins de croisements possible, ainsi qu'une utilisation maximale des tuyaux. En utilisant cette application, un concepteur n'a plus besoin de jours pour prendre en compte le débit, le diamètre du tuyau, la vitesse de l'eau, etc. L'idée du système d'irrigation porté par l'équipe de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie a été initialement appliquée au système de tuyauterie dans la salle des machines du navire. Cependant, il peut ensuite être utilisé dans l'agriculture, les plantations, les systèmes de refroidissement des bâtiments, la construction de réseaux de l'assainissement et de réseaux d'eau potable, etc. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku bersama mentari. Ku bernyanyi mewarnai hari-hari bersama pelangi. Ku menari menyambut bebasnya hati. Takkan berhenti melangkah ke Samudra. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti. Namun kini ku kembali coba nikmati indahnya dunia. Tidak ada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku bersama mentari. Ku bernyanyi mewarnai hari-hari bersama pelangi. Ku menari menyambut bebas.
Dernière chanson intitulée Moving On ou en français Se mouvoir, chantée par Abdul and the Café Theory. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Voici le magazine musical et cette édition, nous présentons une chanson intitulée Keroncong Fantasi. La chanson créée par Piet Munandar décrit une chanson, l'accompagnement de la musique et des paroles peut influencer ses auditeurs. Le rythme qui descend et monte peut changer l'humeur et la chanson Keroncong Fantasi peut divertir les auditeurs ou vice-versa les rendre tristes. Bon, chers auditeurs, voici Emri Vani dont le titre est Keroncong Fantasi.
Merdu.
Indonesia.
Tempat berlindung sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata.
Voice of Indonesia.
Kumbang, dapatkah kumbang terbang mencapai rembulan. Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. À bientôt.